Coxigru et Calambredaine.
Coxigru et Caxinglebelle. Coxigru et Calambredaine. Coxigru et Calambredaine.
Coxigru et Calambredaine.
Gargouille, extrait de microfiction de Régis Jauffray. L'existence est une guerre permanente qui peut durer 100 ans comme 12 et s'achèvera de toute façon par une défaite. Vous avez connu comme moi l'angoisse lancinante de mourir jeune ou de subir la vieillesse, ce bagne où infirmité et maladie sont plus cruelles encore que la dysenterie et la trique des gardes-chiourmes. Cependant, la gaieté, l'enthousiasme, la joie d'exister demeure un devoir de tous les instants. La tristesse vous condamnerait à l'isolement, sans compter que dans le sein de l'entreprise où vous travaillez, le moindre accès de mélancolie entraînerait votre licenciement, puisqu'on ne tarderait pas à vous tenir pour responsable de la légère inflexion du chiffre d'affaires, pourtant en impressionnante érection jusqu'à l'an passé. Alors, gardant la bouche ouverte telle une gargouille, vous affichez du matin au soir un sourire qui éclaire votre visage comme une lampe. On la voit briller de loin, même si on ne distingue pas toujours vos traits dans le petit couloir sombre qui mène à la salle des archives. Quand sonne le réveil, vous vous mettez en marche péniblement comme une vieille voiture à la batterie épuisée. Vous faites des embardées des toilettes à la cuisine, de la cuisine à la salle de bain et vous vous traînez jusqu'à l'ascenseur comme une lourde caisse remplie de soldats de plomb. Toute votre journée sera une défenestration dans la bonne humeur, au milieu de tous ces sourires aussi lumineux que le vôtre. En rentrant, vous tomberez sur votre lit comme une serpillière soulagée de reposer loin du balai et de ne plus endurer ces douloureuses torsions dans l'eau noire du seau. Je suis sur le point de vous quitter. C'est bien naturel que je tente d'assombrir le moral de ceux qui bénéficient d'un sursis. J'aimerais, comme vous, aimer, jouir encore d'une place dans la société, comme on jouit d'une relation sexuelle quotidienne avec une femme adorée, vivre le présent sans amertume, de respirer pour en sentir les parfums, de mâcher pour en exprimer toutes les saveurs. Je voudrais redevenir immortelle comme dans ma jeunesse. À cette époque, le temps me semblait une machine lente, poussive, peut-être même complètement détraquée, et bien incapable en tout cas de me rattraper. Je le prenais pour un tapis roulant infini au mouvement à peine perceptible. Maintenant, le tapis roulant s'est emballé. J'aperçois déjà là-bas le vide, le néant, ce qu'il convient sans doute d'appeler la mort.
Pomelot et les couleurs. Quand tout lui semble noir ou blanc, Pomelot regarde autour de lui et redécouvre soudain le blanc blanc de la page blanche, le blanc infini de l'hiver, le blanc mousseux du lait chaud, le blanc rassurant du pissenlit, le blanc de l'œil et le blanc de l'œuf, qui sont presque la même chose. Le jaune jamais pareil du pipi. Le jaune banane des patates. Le jaune aveuglant du midi. Le jaune acidulé du citron. Le jaune fluorescent des verres luisants. Le jaune moutarde qui montonnait. Le jaune canari cuit-cuit. Le jaune plop du pissenlit. Le orange du jour qui s'en va. Le orange angoissant de l'automne. Le orange râpé des carottes. Le orange expérimental de la moquette. Le véritable orange de l'orange. Le rouge d'une promesse. Le rouge hypnotisant de l'amour. Le rouge surprenant des tomates. Le rouge éclatant de la colère. Le rose cuculapraline du bonheur. Le rose absolu des fesses de Pomelot. Le rose des salades, si seulement elle voulait. Le marron tout bête de la terre. le doux marron des marrons, le marron inimitable de Gigi, le violet insondable de l'aubergine, le mauve étourdissant de la lavande, le violet révélateur des myrtilles, le fuchsia qui ne sert à rien sauf au navet, le violet de pomelo s'il était une mémé, le violet invisible des ultraviolets, le bleu des rêves, le bleu mouvant du ciel, le bleu glacé de l'hiver, le bleu éteint de la nuit, le bleu obscur de l'inconnu, le bleu vert de l'eau, le vert parfait des petits pois, le vert couroucoucou de Rita, le vert de quand on n'y arrive pas, le vert bouleversant du printemps, le vert tout court, le vert rebondissant de la mousse, le vert immobile des sapins l'été, le vert cacadois d'après la pluie, le vert de gris du pourri, le gris raplatissant de la déception, le gris inconcevable de l'éléphant, le gris hachuré d'un crayonné, le gris de l'oubli, le gris fatal d'un caillou, le gris mouillé de la pluie, le noir parfait, lisse et brillant du mystère, le noir de l'aventure, le noir de la fin. Pomelo est alors rosement content d'être lui aussi une couleur dans ce monde multicoloré.
Gougnafier, extrait de microfiction de Régis Geoffrey. Je ne suis pas ridicule, je suis écrivain. À 72 ans, je peux même dire que j'ai réussi. J'ai bâti une œuvre mineure, mais elle existe. J'ai toujours eu du talent, quoique peu. J'écris difficilement, mes phrases me crucifient comme si les lettres dont elles étaient constituées étaient des clous qu'enfoncerait dans ma chair le marteau de la syntaxe sur la croix du style. J'ai bâti des histoires d'après mon vécu, et personne ne peut se vanter de m'avoir un jour donné l'heure sans être apparu méconnaissable dans un de mes livres. Si vous faites partie de mon petit public, en me lisant, vous vous êtes peut-être croisé sans vous reconnaître. Je suis comme un photographe qui prendrait toute sa vie des clichés de girafes et n'obtiendrait jamais que des photos représentant les murs lépreux de sa cuisine. Mes personnages sont dérisoires. Ils naviguent comme ils peuvent à travers les rouleaux d'une intrigue assez médiocre que je ne maîtrise guère. Les dialogues sont saccadés comme les films burlesques du cinéma muet, et ils ne font que contrarier la lente évolution du récit, car par manque d'imagination, mes romans sont statiques comme des épaves au fond d'un canal. Pour gagner ma vie, je suis lecteur depuis un demi-siècle dans une maison d'édition. Quand je donne un avis négatif sur un manuscrit impubliable, je chaparde quelques phrases, des idées séduisantes qui ne me seraient pas venues à l'esprit, ainsi que des jeux de mots et des plaisanteries dont je truffe ensuite ma prose pour lui donner du goût. J'essaye, par tous les moyens, de distraire, d'amuser, de piquer la curiosité des plus coriaces, et j'injecte à l'occasion dans le corps du texte des scènes sexuelles dans l'espoir qu'on me sera au moins reconnaissant d'une érection passagère, même si elle est un peu poussive. Je suis de ceux qui pensent que la littérature doit se mettre au service du lectorat afin de lui procurer le bien-être dont la vie le frustre. Même les grands écrivains sont, à mon avis, d'humbles employés que les éditeurs n'hésitent pas à mettre à la porte du jour au lendemain si les consommateurs cessent d'acheter leurs produits. Vous me prenez sans doute pour un gougnafier malhabile, un envieux, j'en conviens. Et je suis de surcroît volontiers médisant. Mais sous prétexte qu'ils passeront un jour à la postérité, l'arrogance de mes confrères est sans limite. Que cette mise au point les mortifie.
Mon premier amour a les dents jaunes. Il entre dans mes yeux de 2 ans, 2 ans et demi. Il se glisse par la prunelle de mes yeux, jusqu'à mon cœur de petite fille, où il fait son trou, son nid, sa tanière. Il est encore à l'heure où je vous parle. Aucun n'a su prendre sa place. Aucun n'a su descendre aussi loin. J'ai entamé ma carrière d'amoureuse à 2 ans. Avec le plus fier amant qui soit. Les suivants ne seraient jamais à la hauteur, ne pourraient jamais l'être. Mon premier amour est un loup. Un vrai loup, avec fourrure, odeur, dents jaunes ivoire, yeux jaunes mimosa. des taches d'étoiles jaunes dans une montagne de pelage noir. Mes parents sortent en criant de la roulotte. C'est la nuit. Les autres roulottes, une à une, s'éclairent. Tous en descendent. Le clown, l'écuyère, le jongleur, les femmes, les autres enfants. Tous en chemise de nuit, en pyjama ou à moitié nu. Ils m'appellent, s'accroupissent sous les camions pour voir si je ne m'y suis pas mis caché par jeu et ensuite endormi. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Ils s'éloignent sur la place du village, appellent encore. N'appellent plus, mais hurlent. Des fenêtres commencent à s'allumer aux maisons voisines et des gens se fâchent, crient au tapage nocturne, menacent des gendarmes. C'est ma tante qui me trouve. Elle court aussitôt, de l'un à l'autre, impose le silence, fait signe qu'on la suive sans bruit, surtout sans aucun bruit. Voilà le cirque au complet qui s'approche de la cage. La porte est entrouverte. Je suis allongée sur la paille dorée et j'ai les yeux fermés. Ma petite tête de 2 ans appuyée contre le ventre du loup. Je dors. Je dors d'un sommeil limpide et bienheureux. Le loup venait des forêts de Pologne. On l'exposait pour attirer les spectateurs pendant l'installation du chapiteau. Il n'entrait dans aucun numéro. Un loup, ça ne se dresse pas. Les gens emmenaient leurs enfants voir le prince noir des contes de fées. La brute superbe. On ne leur disait pas la vérité. Que ce loup était plus aimable qu'un lapin, que l'écuyère lui donnait à manger dans sa main, et que rien de grave, pas même un grognement, n'était jamais sorti de la montagne de fourrure et d'étoiles. On avait accroché un écriteau en lettres rouges au-dessus de la cage. « Loup de la région de Cracovie ». Les gens étaient plus effrayés par la pancarte que par la bête assoupie au fond de la cage. Mais ils étaient contents, ça leur suffisait comme preuve. Ce sont les noms qui font peur. Les choses sans les noms, ce n'est rien, pas même des choses. Donc, toute la tribu est là, en demi-cercle, devant le tableau de la petite fille au loup. D'accord, il n'est pas dangereux, mais quand même, il y a des limites. Mon père s'approche, entre dans la cage, et quand il va pour me saisir, le loup redresse la tête. Seulement la tête, aucun mouvement du ventre ou des pattes, comme s'il ne souhaitait ne pas me réveiller. Et il se met à grogner pour la première fois, à montrer ses dents jaunies. Nouvelle tentative de mon père, un grognement plus fort, plus net, et les dents qui se découvrent jusqu'aux gencives. Mon père recule, rejoint les autres. On discute, on réfléchit. Le dompteur dit « C'est mon métier, j'y vais ». Même réaction, la mâchoire qui claque, on choisit d'attendre. Les heures s'écoulent. Silencieuse. Ils sont tous là, grelottant de froid devant la cage, guettant l'instant où le loup va s'endormir. La scène dure jusqu'au matin, jusqu'à l'aube. Le loup veille sur mon sommeil. Lorsque, caressé par les premiers rayons de lumière froide, j'ouvre mes yeux, m'étire et commence par me mettre debout, il s'écarte doucement et va à l'autre bout de la cage, gagner un repos mérité. Je ne sors pas tout de suite. Je regarde les autres derrière la grille, la pâleur de leur visage. Je ris et je chante toute rafraîchie par ce sommeil immaculé. On m'empoigne 2 claques sur les fesses et on me boucle 1 semaine dans la roulotte. Depuis, on me surveille. On vérifie 10 fois par jour la fermeture de la cage. On ne peut m'empêcher de passer des heures devant. Quand la tension se relâche, vite, je tends mes mains à travers les barreaux et je les lui donne à lécher. Le soir, avant de m'endormir, il faut que mon père m'emporte en pyjama devant la cage et que quelques minutes, je regarde les yeux jaunes soleil dans la nuit d'encre, que je m'avance et que je me perde dans ces yeux-là. Le loup est mort près d'Arles. J'avais 8 ans. On est venu m'en prévenir avec des soins infinis, comme on devait informer un général d'une grave défaite de ses troupes. Je n'ai rien dit. La caravane s'est arrêtée un peu avant Arles, dans une décharge éclairée de coquelicots. Les hommes ont sorti les pelles. C'est moi qui ai guidé le cortège. J'ai choisi le coin le plus ensanglanté de coquelicots. On a creusé un trou. Je me suis fâchée avec ma mère, finalement elle a cédé et on a exaucé mon souhait. On a glissé mon pyjama dans le trou. On a enveloppé le loup dedans.
Il y a bien longtemps, sous le ciel infini d'Italie, un petit homme vivait comme un vagabond. Il s'appelait Angelo et il avait un don. Les cailloux qu'il ramassait au bord des chemins dansaient dans ses mains. Il les lançait en rythme vers le ciel. Et hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cailloux s'envolaient au-dessus de lui, sans jamais se cogner ni tomber. Grâce à ce don, Angelo trouvait toujours quelqu'un pour lui donner un peu de pain ou lui offrir le toit d'une grange quand il faisait trop mauvais. Et il vivait ainsi, jongleur de cailloux et vagabond. Un soir, en suivant son chemin de hasard, Angelo arriva dans un village où s'était installé un cirque. Il n'en avait jamais vu. Le spectacle avait commencé, Angelo se glissant en douce sous le chapiteau. Il regarda avec délice tous les artistes qui défilaient dans la lumière, sous les applaudissements. Il avait l'impression d'avoir enfin trouvé sa famille, sa maison. Quand le public quitta le cirque, Angelo, fou d'espoir, courut se présenter au directeur. « Je suis jongleur, » annonça-t-il fièrement. « J'aimerais tant travailler avec vous. Si vous voulez bien de moi, vous n'aurez pas à le regretter. Regardez !» Et Angelo sortit de sa poche les 7 cailloux. Il les fit danser sous les yeux du directeur. Le directeur regardait d'un mauvais œil cet homme en guenille. Il le jeta dehors en criant « Espèce de fou ! Je n'ai pas besoin d'un jongleur de cailloux dans mon cirque. On jongle avec des couteaux et des chapeaux qui scintillent. » Angelo était seul dans la nuit, avec ses 7 cailloux. Alors il se mit à jongler, de plus en plus vite, de plus en plus haut. Il jongla de tout son cœur, trop lourd de solitude. Les 7 cailloux dansaient une danse parfaite. Mais quand ils retombèrent dans les mains d'Angelo, il n'en restait plus que 6. « Ah ça !» se dit Angelo, « c'est la première fois que je perds un caillou. » Il cherchait, intrigué, où avait bien pu tomber ce caillou, quand soudain il entendit la lune murmurer « Jongle pour nous, Angelo, s'il te plaît. » Et aussitôt, la lune déroula un de ses rayons et elle déposa une étoile dans la main du jongleur. « La nuit m'a pris un caillou et elle me donne une étoile à la place !» s'écria Angelo. Il recommença à jongler avec les 6 cailloux et l'étoile. Il jongla pour la nuit, comme la lune lui avait demandé. Chaque fois qu'un caillou s'élevait au-dessus des autres, dans le ciel, il disparaissait dans la nuit, remplacé bientôt par une étoile. Angelo osait à peine respirer. Jamais ses gestes n'avaient été si doux, comme des caresses, pour ne pas blesser les étoiles que la nuit lui offrait. Le public, au dehors du chapiteau, vit ce spectacle merveilleux. Il s'approcha en cercle autour d'Angelo. Les étoiles, en dansant au bout de ses doigts, laissaient échapper une lumière bienfaisante. Quand la nuit sentit qu'Angelo était fatigué de jongler, elle reprit ses étoiles une à une et Angelo ferma les yeux, les mains vides, mais tellement heureux que c'est à peine s'il entendit les applaudissements qui éclataient autour de lui. Le directeur du cirque se précipita. « Vous êtes engagé !» Mais avant qu'Angelo ait eu le temps de répondre, les 7 cailloux tombèrent du ciel, juste sur le chapeau du directeur. Alors Angelo éclata de rire. Il comprenait le message de la nuit. Sa famille et sa maison n'étaient pas ici. Mais un jour, c'est sûr, il trouverait. Il reprit sa route, plein de joie et de courage, car la lune lui souriait et il était comblé d'étoiles.
Ma cu e corte.
Coxigru et Calambredaine.
Coxigru et Caxoglobelle. Coxigru et Calambredaine. Coxigru et Calambredaine.
Coxigru et Calambredaine.